France Inter.
Enquête de politique, chaque semaine, rendez-vous avec ISM. Nous revenons sur une idée, un mouvement, une tendance, un isme, un thème pour mieux comprendre les termes, les mots du débat politique d'aujourd'hui.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Aujourd'hui, troisième épisode d'enquête de trotskisme. Stora, Sabado, deux trotskismes français.
Nos oppositions de gauche restons fidèlement dévouées à l'international communiste.
Je me trouve dans une grande pièce avec au fond Trotsky qui se lève. J'ai cru que c'était la révolution d'octobre qui se lève à tout d'un coup.
Les Trotskys sont des révolutionnaires. Trotsky était un révolutionnaire et pas un gauchiste.
Au quatrième, dans mon HLM, il y a celui que les voisins appellent le communiste. Même ça lui plaît pas bien. Il dit qu'il est trotskiste. J'ai jamais bien pigé la différence profonde. Il pourrait m'expliquer, mais ça prendrait des plombes.
Je pense à l'affirmation prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Eh bien, vous voyez ?
J'ai joué dans un film qui s'appelle « Portrait d'une jeune fille en feu ». Et aujourd'hui, vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu.
Si vous lisez ce qu'a écrit Trotsky sur le stalinisme, la dégénérescence de l'Union soviétique, vous comprenez, y compris Poutine aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous allons suivre deux parcours, celui de François Sabado, révolutionnaire professionnel, trotskiste et resté trotskiste toute sa vie, au sein de la JCR, la Jeunesse Communiste Révolutionnaire, puis de la LCR, la Ligue Communiste Révolutionnaire, puis du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Il a été aussi établi en usine pendant 2 ans. Mais d'abord, Benjamin Stora, l'historien bien connu, auteur du rapport pour la réconciliation des mémoires de la guerre d'Algérie pour le compte de la présidence de la République. Il a été longtemps trotskiste au sein de l'OCI, l'Organisation communiste internationaliste, l'autre grande tendance. Stora est même un temps permanent très proche du mystérieux Pierre Boussel-Lambert, Benjamin Stora, alias Pachnev, puis alias Truffaut.
J'ai découvert, disons, le trotskisme en sa version entre guillemets lambertiste à 17 ans. Puisque j'étais lycéen à Saint-Germain-en-Laye, et donc mon lycée s'est mis en grève, comme beaucoup de lycées, bien entendu, à cette époque-là. Et il y avait des jeunes filles qui étaient à l'école normale de Saint-Germain, qui diffusaient, disons, devant le lycée. À 17 ans, vous savez, on est toujours séduit par la présence de jeunes filles. Et donc, j'ai adhéré à la JS.
Voilà, par amour ou en tout cas par séduction.
Alors, il y a à la fois la conviction, quand même, parce que j'étais révolté, comme toute la jeunesse de l'époque, bien sûr. J'ai tout fait, sous le gaullisme, parce qu'avant 68, bien sûr, comme un jeune homme de 16 ans ou 17 ans, j'écoutais le soir sur Europe 1 les émissions comme Campus, La Contre-Culture, Jimi Hendrix, tout ça, c'est 67.
Les psaumes sont écrits sur les magnétophones. Campus.
Ça, c'était préparatoire, je veux dire, à 68. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait une
juste une précision pour nos auditeurs européens à l'époque, était la radio de la contre-culture. On en est bien loin. Mais bon, on continue.
Voilà, il y avait plein de choses comme ça, de révolte, de la révolte générationnelle contre les parents. Il y avait la télévision très contrôlée. Tout était très contrôlé. L'autoritarisme des enseignants. Enfin bon, bref, il y avait une volonté de sortir de ce carcan qui était quand même très fort. Donc arrive 68. Il se trouve que j'ai été le seul adhérent de mon lycée, Marcel Roby, à Saint-Germain-en-Laye, de cette organisation qui s'appelait l'Alliance des Jeunes pour le Socialisme, qui s'est créée tout de suite après, d'ailleurs, à la rentrée d'octobre 1968, septembre-octobre. J'étais un des premiers adhérents à la JS. Je crois que je dois avoir la carte 002 ou un truc comme ça.
Donc, à ce moment-là, vous êtes, disons, gauchiste de mai 68, ou alors est-ce que vous commencez à lire Trotsky, à vous intéresser à l'histoire de Léon Trotsky, à sa spécificité dans le mouvement révolutionnaire?
Alors, pour être honnête, je me suis intéressé à cette organisation-là précisément plutôt qu'une autre, parce qu'elle me semblait extrêmement sérieuse. C'est-à-dire que moi, j'ai habité dans une cité ouvrière à Sartrouville. Ma mère était ouvrière d'usine. Donc il y avait la culture ouvrière. Le PC était très fort, était très puissant. Et pendant tout un temps, d'ailleurs, j'avais été proche des jeunesses communistes quand ils ont fait leur marche contre le Vietnam. Donc j'étais un peu dans cette culture ouvrière, très encadrée, très, très stricte. L'AJS, puis ensuite l'OSI, dans laquelle je suis rentré dès 1969, donc très très jeune, j'avais 18 ans. Ça me paraissait beaucoup plus sérieux que la Ligue communiste, que les Mao de la gauche prolétarienne, par exemple, qui me paraissaient plus lyriques, c'est vrai, plus joyeux, mais beaucoup moins sérieux. Moi, je cherchais une organisation sérieuse. Et donc, j'étais tout à fait d'accord pour lire Trotsky, et j'ai commencé à lire, dès l'été 68, alors, la Révolution permanente de Trotsky, j'avais honnêtement, strictement rien compris à l'époque. J'avais pas compris pas grand-chose, quoi. Bon, c'était très abscon pour moi, mais je me suis accroché, quoi. Tout au long de ma vie dans l'OCI, je me suis avalé je sais pas combien d'ouvrages. Je vais pas citer les livres de Boukharine, Radek, Rakovski, Zinoviev,
Lénine. Oui, parce qu'il faut dire que les militants trotskistes sont un peu parrainés et ils doivent lire des livres et faire des comptes rendus régulièrement. Il y a un côté éducation populaire très important dans la militance trotskiste.
Ah, c'est très fort. Il y avait ce qu'on appelait des groupes d'études révolutionnaires, les GER. Et pendant 6 mois, c'était comme une sorte d'université populaire de l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait lire des livres qu'on nous demandait de lire, d'une bibliographie. Et ensuite, la semaine suivante, dans le GER, on faisait le compte-rendu de tous les ouvrages. Alors évidemment, Lénine, Trotsky, ça c'était... Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi des livres d'aventure, entre guillemets, comme par exemple « Sans patrie ni frontières hein, » de Yann Baltin. Le livre d'Elisabeth Poretsky, qui est un très grand livre qui s'appelle « Les nôtres hein, », qui raconte la lutte contre le stalinisme des années 30. Il y avait les livres sur le Front populaire de Danos et Gibelin. Enfin, en évoquant tous ces titres de livres, peut-être que vos auditeurs vont avoir des souvenirs de tous ces ouvrages que certains étaient parus d'ailleurs chez Maspero en 69, 70, 71. C'était la grande année hein, des publications de tous ces ouvrages. Donc il fallait lire. On lisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce qui m'a été d'ailleurs, par parenthèse, ma meilleure formation d'historien. Au bout de 6 mois, j'ai été admis comme une sorte d'examen, en fait, hein, qu'on passait pour entrer à l'organisation communiste internationaliste, qui à l'époque, d'ailleurs, était clandestine. Elle avait été dissoute après 68. Donc il y avait aussi, j'avais 18 ans, il y avait aussi le parfum de la clandestinité, du secret, hein, qui existait, qui est très romantique, quand même. Hein. Donc on prenait tous des pseudonymes.
Alors quel était votre pseudonyme?
Mon premier pseudonyme, c'était Pachnev, un nom russifié. On était très russifié, entre guillemets, parce que on avait lu, bien sûr, « Histoire de la Révolution russe ». Connaissait tous les membres du comité central du parti bolchevique. Donc j'ai pris ce pseudonyme. Après, je l'ai abandonné. Non,
pourquoi Pachnev? Ça voulait dire quoi?
Ça voulait rien dire du tout. Mais ça sonnait bien. Ça sonnait révolutionnaire.
Dans les réunions militantes, ça veut dire qu'on vous appelait Pachnev?
Oui, exactement, quand on se réunissait.
Mais tout le monde savait que vous vous appeliez Benjamin Stora, quand même.
Ah non, on connaissait pas les vrais noms. Moi, j'ai mis longtemps à découvrir les noms authentiques de mes camarades. En rigolant d'ailleurs aujourd'hui entre anciens, entre guillemets, on s'appelle encore par nos pseudonymes, alors Manso, Costas. Et j'ai changé ensuite de pseudonyme, ça correspondait plus à ma sensibilité, le second pseudo que je vais ensuite garder toute ma vie militante, c'était le nom de Truffaut, parce que Truffaut c'était le nom d'un cinéaste que j'aimais énormément, et là j'ai fait ensuite toute ma vie militante sous le pseudonyme de Truffaut.
Tel que vous nous en parlez, c'est une aventure aussi romantique que politique, le trotskisme pour vous à cette époque?
C'était les années où j'avais entre 17 et 20 ans. Il faut se rappeler l'atmosphère de post-68 où on pensait qu'on avait vécu la grève générale comme celle de 1905, pouvant aboutir en 1917 à la révolution réelle, quoi. Donc la révolution d'octobre, bien entendu, c'était la référence majeure, suprême. Et donc à partir de là, bien sûr, ça a été 3-4 ans absolument extraordinaire. Succession de grèves, de manifestations.
Vous aviez dans l'idée que le pouvoir gaulliste pouvait être renversé?
Ah, il y avait cette idée-là. Qu'est-ce qui s'est passé un an seulement après 68? Ben, ça a été la défaite du général de Gaulle au référendum. Pour l'extrême gauche de l'époque, c'était un formidable encouragement.
Oui, mais en même temps, la France de juin 68 et la France de 69, la majorité de 69, était plus à droite qu'avant cette révolte.
400 députés en France envoyés au Palais Bourbon de droite. Alors je comprenais plus rien, et là, c'est là que la JS intervient, l'OCI, l'extrême-gauche, pour dire « oui, mais parce que l'avant-garde n'est pas suffisamment constituée ». C'est-à-dire que le parti n'est pas suffisamment fort. Donc là, comme on disait, on prenait la phrase de Trotsky, qu'on répétait sans arrêt entre nous, c'est « la crise de l'humanité se réduit à la crise de la direction révolutionnaire ». C'était vraiment la formule clé, quoi.
Vous sentiez la pointe de l'avant-garde et une responsabilité de changer le monde, même si vous étiez minoritaire à ce moment-là.
La référence, c'était le livre de Lénine. Que faire ? C'était effectivement le petit groupe de bolcheviks marchant sur un chemin escarpé. Vous voyez, je me rappelle encore des citations pour aller vers la conquête du pouvoir. Donc il y avait cette notion-là d'avant-garde qui était quand même très puissante, quoi.
Enquête de politique, troisième épisode de notre série du mois de mai, enquête de trotskisme. Aujourd'hui, deux destins, deux trotskismes au sein de deux tendances, deux cultures trotskistes bien différentes. Nous sommes avec Benjamin Stora, il milite dans sa jeunesse à l'OCI et côtoie le leader de l'ombre qui fascine plusieurs générations de militants, Pierre Lambert.
Alors Pierre Lambert, effectivement, il est auréolé d'un très grand prestige. Quand je le vois, quand je vais travailler avec lui à partir de 1973, moi j'étais très jeune, j'avais 22-23 ans, lui était pas beaucoup plus vieux que ça, mais à nos yeux, il était très vieux. D'ailleurs,
il avait fait la guerre quand même.
Alors oui, mais il avait quoi ? Il avait 50 ans à l'époque. 50, c'est pas très vieux. Mais pour nous, à l'époque, qui étions des gamins, on avait 20
pour vous ans. Maintenant, 50 ans, c'est pas très vieux. Mais pour vous, quand vous aviez 22 ans, c'était cacochime.
C'était énorme. On l'appelait le vieux. Quand on parlait de Lambert, on disait le vieux a dit que...
Comme les trotskistes disaient le vieux en parlant de Trotsky dans les années 40-30.
Oui, c'est-à-dire que pareil... C'était assez affectueux, d'ailleurs. Lambert n'était pas si vieux que ça. Il avait 52-53 ans. On le voit, d'ailleurs, quand on regarde les photos de l'époque, des manifs de 71, 72, etc., quand il est en imperméable dans la rue, etc. Il est assez jeune, quoi.
Il n'est pas charismatique du tout. Quand on le voit comme ça, avec ses lunettes un peu teintées, son imperméable, il fait un peu homme gris qui passe partout. Et qui ne cherche pas, d'ailleurs, la lumière.
C'est ça qui est impressionnant. Parce que, précisément, c'est un homme non public.
Les choses devraient être simples. Il y a face à face les intérêts capitalistes défendus par le régime de la Ve République et de l'autre, les intérêts des masses laborieuses et de la jeunesse. La seule question devrait être chasser Giscard.
Quand moi je le rencontre en 73, moi je suis très impressionné par ses dirigeants, et en particulier Lambert, parce que la façon de penser de cette époque-là, quand j'y réfléchis, c'est incroyable, c'est « méfiez-vous des médias ». On a été élevés là-dedans, certains toujours aujourd'hui d'ailleurs. C'est-à-dire que Lambert n'était pas un personnage public, et il ne voulait pas être un personnage public. Il était dans son bureau, il allait de manière anonyme dans les manifestations, on pouvait le voir à l'intérieur des cortèges. Donc c'était très impressionnant, parce que c'était l'homme qui dirigeait, mais qui était fondu dans l'anonymat. C'était extraordinaire. On parlait tout à l'heure de romantisme, de clandestinité. Donc pour quelqu'un comme moi, qui avait 23 ans, 24 ans, on savait que Lambert avait traversé le Front populaire, traversé la Seconde Guerre mondiale, la lutte contre le stalinisme des années 50, la guerre d'Algérie. Il lui-même disait, faut faire comme en 36, faut faire comme en 44. Vous savez, on n'utilisait même pas les séquences, on ne nommait pas les séquences. La chronologie suffisait. C'est-à-dire 44, 53. Par exemple, quand on dit 53, c'est la scission. C'est les pablistes. Non, on ne va pas faire comme en 53. On dit 36, 44, 47. Une date clé dans l'histoire du mouvement trotskiste.
47, les grandes grèves.
Grande grève Renault.
Renault, où les trotskistes sont importants.
Les trotskistes sont importants, enfin c'est ce qu'on disait à l'époque, mais après quand j'ai fait mon travail d'historien classique, etc., je me suis aperçu que c'était surtout les Algériens qui étaient à Renault et qui ont fait la grève. 53, c'est la révolte à Berlin-Est. Donc on disait aussi, comme en 53 quand on parlait des pays de l'Est. 56, Budapest, et bien sûr 68, Prague. Donc il y avait toujours...
Et à chaque fois, les trotskistes se disent, c'est peut-être le moment, l'étincelle de la révolution qui se répand.
C'est ça. On se dit, ça y est, c'est le moment, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire, que ce soit à l'Est ou à l'Ouest. Quand je voyais passer le cortège de la Ligue avec les chansons, les tambours, etc., il y avait de la joie.
Vous aviez les cheveux longs, Benjamin Stora. J'ai revu des photos de vous jeunes, vous aviez les cheveux longs.
Absolument. C'est-à-dire qu'il y avait la moustache, les cheveux longs, les petits blousons de cuir de l'époque, etc. Enfin bon, c'était tout l'attirail de les vêtements de l'époque, etc. Donc la Ligue, effectivement, nous apparaissait comme une organisation beaucoup moins sérieuse. Alors quand on est jeune comme ça, alors à la fois j'étais fasciné, intéressé, complètement convaincu par l'OCI, mais très intéressé par le passage des cortèges de la Ligue.
Les filles étaient plus à la Ligue, non ?
Pas si simple que ça. Ça aussi, c'est une idée fausse, parce qu'on avait beaucoup de filles à l'OCI. Bon, ce que je vais dire va pas plaire du tout aujourd'hui. Hein. Peut-être que là, ça va m'attirer.
Peut-être un peu boomer,
ça,
là.
Ça va m'attirer des histoires invraisemblables. Mais les filles de Nanterre, de Fac, de Sancier, de je sais pas quoi, des lycées, elles étaient attirées par des garçons comme nous. Blouson de cuir, service d'ordre, qui faisait de l'entraînement, de karaté, de tout ça, quoi. Le virilisme, je veux dire, de l'OCI. Eh ben, nous attirait beaucoup de filles, quoi. Le problème, c'est que c'était les garçons qui dominaient. C'est-à-dire les chefs, par contre, la direction, pratiquement toujours des hommes. Maintenant que je vois ça à distance, c'est vrai qu'il y a le côté insupportable de ça. Ça, c'est certain.
Revenons à Lambert. Je voudrais qu'on progresse un peu dans le temps et qu'on arrive vers les années 80, où là, Lambert savait tout. Vous m'avez dit ça un jour, Benjamin Stora, tout sur tout le monde.
Bah, Lambert connaissait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, parce que il avait une conception. C'était pas ce qu'on appelle de l'entrisme, mais du travail de fraction. Vous savez, il y a dans la terminologie trotskiste, c'était compliqué.
Hein. Il y a la fraction, effectivement. Voilà,
le travail de fraction, c'est le travail clandestin complètement. Je veux dire que des gens sont placés dans des organisations syndicales ou politiques, ou même associative, du type Ligue des droits de l'homme, etc. Le fractionnisme, dans le fond, moi, je l'ai découvert que progressivement. Quand je suis rentré à l'organisation, je ne savais pas tout ça. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des gens qui renseignaient l'organisation sur ce qui se passait à la CGT, bien sûr à Force ouvrière, la Fédération de l'Éducation nationale, la FEN.
Et au PS, qui devenait surpuissant depuis 1972.
Ça a été la chance historique de Lambert et de l'OCI, c'est d'avoir joué la carte, entre guillemets, du PS plutôt que du PC. La revanche de 53. Et à ce moment-là, en choisissant d'épauler, entre guillemets, le Parti Socialiste, dans le fond, nous, comme mouvement de jeunesse, on était l'aile gauche du Parti, sans le dire, hein, on ne le disait pas comme ça, mais dans les faits.
Oui, parce que parallèlement, vous devenez syndicaliste étudiant,
oui.
Vous êtes un des créateurs de l'UNEF ID,
ouais.
Principal créateur. Et donc là, vous vous définissez à ce moment-là comme un trotskiste qui va aider les socialistes, un trotskiste qui veut transformer le Parti Socialiste en parti révolutionnaire, ou vous vous sentez déjà que vous allez devenir un notable socialisant?
Ah non, on ne pouvait pas imaginer une seconde qu'on serait un jour des notables. Mais ce que vous dites est parfaitement vrai. C'est-à-dire qu'on pensait effectivement qu'on allait aider le Parti Socialiste à devenir un grand parti révolutionnaire parce qu'on écoutait François Mitterrand.
Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi, avec la société capitaliste, celui-là, il ne peut pas être adhérent du Parti Socialiste.
Faut pas se rappeler de l'époque, 77, 76, les discours de Mitterrand de rupture avec le capitalisme radical, et puis surtout de modification des institutions de la Ve République. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que dans le fond, on pouvait aider, épauler, je veux dire, le Parti Socialiste et François Mitterrand à aller, comme on le disait, formule de l'époque, aller plus loin qu'il ne le veut dans la voie de la rupture avec la bourgeoisie. C'est une phrase de Trotsky.
Pour vous, François Mitterrand, dans les années 70, c'était pas l'ancien ministre de l'Intérieur. D'ailleurs, l'ancien ministre de la Justice de la 4e République, Algérie française.
Tout ça, je l'ai découvert que quand j'ai commencé mes études sur l'Algérie. Donc à partir de 1977, 78, quand j'ai commencé à faire ma bio de Messali. Ce qui m'a amené d'ailleurs, 2 ans plus tard, à ne pas voter au comité central pour le vote Mitterrand. J'ai refusé. Quand Lambert met au vote le vote Mitterrand, on s'est retrouvés deux à ne pas appeler à voter Mitterrand dès le premier tour. Stéphane Juste et moi.
Alors là, il faut faire un petit arrêt avec l'historien Benjamin Stora que vous êtes, parce que c'est vrai que pour se remettre dans cette époque-là, il n'y avait pas Internet, et l'archive politique n'était pas accessible, et les hommes politiques et les grands personnages politiques pouvaient façonner leur histoire et leur biographie comme ils le voulaient, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Vous nous parlez du début des années 70, Mitterrand pouvait cacher le fait qu'il ait été pour l'Algérie française, qu'il était un ministre régalien plutôt modéré et répressif des années 50. Ça avait été oublié volontairement.
Je me souviens d'une discussion avec Lambert en 73, et j'avais pas compris ce qu'il disait. Et Lambert disait, à l'époque de Mitterrand, après il a changé, mais il disait c'est un Versaillais.
Référence à la Commune.
Ah oui. La social-démocratie, dans notre esprit...
À ce moment-là, dans votre esprit, oui.
Dans les années 70, c'est une organisation de gauche antistalinienne. C'est-à-dire qu'on est, on peut aller avec eux, on peut combattre avec eux, on peut s'associer dans des batailles, parce que dans le fond, c'est un espace politique beaucoup plus libre, la parole est beaucoup plus libre que dans l'espace stalinien où la parole est beaucoup plus fermée, on ne peut pas parler. Donc la social-démocratie, c'était l'espace d'une possible intervention politique beaucoup plus libre que dans le Parti communiste.
Enquête de politique, le trotskisme. Revenons avec Benjamin Stora sur Pierre Boussel-Lambert. Le stratège a compris que pour s'immiscer dans la sphère de la gauche de gouvernement, eh bien, il faut passer avec la jeunesse par les syndicats étudiants, les mutuelles étudiantes.
Il tire pas les ficelles, mais quand Jean-Christophe et moi, nous
Jean-Christophe Campadélis,
qui est devenu président de l'UNEF US, UNEF Unité Syndicale, qui est, c'est byzantin tout ça.
Oui, l'UNEF se réunit à plus tard, mais bon.
Voilà, quand on avance sur les rencontres avec d'autres dirigeants politiques du Parti Socialiste, dont François Mitterrand lui-même d'ailleurs, hein, Lambert est pour, parce que c'est son histoire, c'est sa tradition politique, oui, pourquoi pas. Parce qu'il y a la possibilité de se construire avec la social-démocratie qui reste un espace, disons, politique possible.
Benjamin Stora, parlez-nous de Lionel Jospin. Que saviez-vous de Lionel Jospin? Lionel Jospin était-il entré par entrisme au Parti Socialiste?
Alors, je le saurais de manière certaine que bien plus tard, parce que bien plus tard, j'ai su qu'effectivement, Lionel Jospin avait été membre de la SFIO, du Parti Socialiste, etc., dans les années 60. Il était déjà énarque, donc c'était quelqu'un d'extrêmement précieux pour Lambert, parce que les trotskistes n'avaient pas d'énarque. Je veux dire, bon, les énarques ne regardaient pas vers l'extrême-gauche.
Ça, vous ne le saviez pas. Vous l'avez appris, comme tout le monde, par le livre de Claude Askelovitch?
Non. Je l'ai appris bien avant, quand je suis rentré au comité central de l'OCI, et j'ai découvert... On parlait tout le temps du frisé.
Eh bien, écoutez, c'était en 70. Il y avait quelques mois, deux ans que j'étais une espèce de compagnon de route.
Michel Brouet, aujourd'hui grand mathématicien français, était sympathisant de l'OCI et il se souvient, en 2002, au micro de Jean Birenbaum pour France Culture, de sa rencontre, 30 ans plus tôt, avec un certain Michel, le nom d'emprunt du militant trotskiste Lionel Jospin.
Une fois ma thèse soutenue, le responsable de l'OCI, de Jussieu, est venu me trouver en me disant « Bon voilà, tu es toujours en train de discutailler ceci ou cela ou tel aspect. Nous, on t'a trouvé un type avec qui tu vas pouvoir discuter et qui aura du répondant. Et si tu l'acceptes, vous déciderez en commun si tu deviens un militant de l'OCI ou non. » Et j'ai vu arriver un grand type frisé, voilà, que j'ai rencontré tous les mardis soirs, cours de discussion qui durait, je sais plus moi, 2 heures, quelque chose comme ça, et on se faisait un certain nombre d'exposés et de discussions. Mais j'ai surtout trouvé un type étonnamment ouvert, étonnamment spontané. Je savais qu'il était énarque, je ne savais pas son nom parce qu'il était plus ou moins haut placé dans l'appareil d'État, et il me l'avait dit au début, il avait dit « bon voilà, je suis navré, mais je vous dirai pas mon nom parce que je suis plus ou moins clandestin », et c'était pas tout à fait évident, donc c'était pas de la clandestinité pour faire joujou, c'était... Et je lui ai dit « j'accepte de me considérer dorénavant comme militant de l'OCI à l'issue de ces 2 mois ou 3 mois, parce qu'il y a dans le parti des gens comme toi. »
Je dis « mais c'est qui le frisé ?» Et le frisé, c'était Jospin. Je parle de l'année 80.
Lambert parlait du frisé.
Il disait le frisé, ouais, voilà, le frisé, etc. Lorsque, le soir, devant ma télévision, un soir, je vois Jospin affronter Georges Marchais, carrément fonctionner comme un trotskiste, quoi. C'est-à-dire que lorsque Georges Marchais lui fait une grosse théorie sur la trahison de la social-démocratie traditionnelle, Jospin lui répond sèchement « Vous, vous parlez, mais moi, je sors du travail. »
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Parti Socialiste, les ouvriers n'avaient aucune responsabilité à la direction du parti.
Dans le comité directeur du Parti communiste qui sort de la scission, sur 28 membres, il y a 2 ouvriers, Georges Marchais.
Ah, mais aujourd'hui, dans le Parti communiste français, il y a 50% dans le comité central d'ouvriers et d'employés, et dans le comité directeur du Parti Socialiste, il n'y en a pas.
Peut-être, alors, mais moi, je travaillais aujourd'hui et je faisais mes cours.
Attendez.
Et je crois, cher Georges Marchais, que ça fait 30 ans que vous n'êtes plus ouvrier.
Non,
et un ouvrier, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille en usine. Ce qui n'est pas votre cas.
Ça, c'est pas n'importe qui peut faire ça et qui peut tenir tête, avec une audace extraordinaire, au secrétaire général du Parti communiste français en 1980. Comme, attention, le Parti communiste français en 80, c'est pas aujourd'hui. Hein. Je dis, c'est un mec qui est proche de nous. Quoi.
Mais est-ce que Pierre Boussel-Lambert et Lionel Jospin se côtoyaient?
Vraisemblablement, c'est à l'ancienne, c'est-à-dire comme dans les années 40, 50, etc. C'est souvent dans les bouffes, quoi. C'est-à-dire les bouffes du midi dans des restos où les gens des autres organisations venaient discuter avec Lambert et ça se faisait comme ça. C'était beaucoup plus informel.
On en parle avec beaucoup de mystère. Est-ce que c'était planifié ou est-ce que c'était simplement une transition pour Lionel Jospin, mais plus tard pour vous, pour Jean-Christophe Cambadélis, pour bien d'autres? Est-ce que c'était une transition normale avec l'âge? On allait vers le Parti socialiste, on venait d'organisations trotskistes et finalement, vous vous faisiez peut-être digérer par la social-démocratie telle qu'on l'entend maintenant. Vous devenez un grand historien, vous devenez connu, vous publiez, vous vendez des livres, vous avez des titres. Donc, ça y est, vous vous notabilisez aussi.
Nous, on n'avait pas conscience que on allait se faire bouffer par le Parti socialiste.
Mais dans ce que vous nous décrivez, Benjamin Stora, on a l'impression que les trotskistes, ça a toujours été comme ça dans leur histoire, ayant le sentiment d'être une avant-garde, ils pensent être beaucoup plus importants qu'ils ne le sont.
Oui, mais ils peuvent pas le formuler comme ça. Ils ont pas ce sentiment-là. Ils ont le sentiment d'être beaucoup plus forts qu'ils ne le sont. Je veux dire, ça c'est a posteriori qu'on reconstruit la chose. Il y a ceux, effectivement, qui vont se diriger vers une suite de professionnalisation politique. Ils étaient des professionnels de la Révolution, ils sont devenus des professionnels du syndicalisme, ils vont rester des professionnels du Parti socialiste. Et moi, j'ai décidé à ce moment-là de rompre. C'est-à-dire que dès 80-81, moi, j'ai commencé à enseigner dans les prisons pendant 4 ans à la centrale de Poissy. Et en fait, en vieillissant, je me suis aperçu que, en particulier à partir de 82-83, lorsque Le Pen arrive sur la scène politique et que le Front National fait des scores invraisemblables, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau combattre, expliquer, etc. Et en fait, qui est-ce qui va tirer les marrons du feu de tout ça? C'est l'extrême droite française, quand même. C'est à quoi ça sert, tout ça, dans le fond? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités de combat sur le plan culturel? Ça a été mon choix. C'est-à-dire d'écrire des livres, d'aller à l'université, de publier des articles. Grosso modo, c'était à quoi on sert.
Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage, une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand.
Benjamin Stora fait partie de cette mouvance plus austère, plus secrète, l'OCI de Lambert. Les militants sont studieux, une grande différence de culture avec les militants de la JCR, puis de la LCR. Au-delà du sombre Krivine, leur leader historique, les pablistes sont plus ouverts sur la société, plus en phase avec la contre-culture prisée par la jeunesse des années 60 et 70. Ce mouvement recèle aussi plus d'enfants de la bourgeoisie citadine. Bonjour François Sabado.
Bonjour.
Vous êtes un trotskiste de longue date, un trotskiste qui a une histoire assez typique finalement du trotskisme. Vous avez été ouvrier, vous avez décidé d'être ouvrier et après vous avez été permanent, on pourrait dire presque vous avez été révolutionnaire professionnel puisque vous avez été permanent d'une organisation trotskiste. Racontez-nous d'abord comment vous êtes devenu trotskiste.
Ma vie, bon, moi je suis né au Maroc et je suis arrivé en France en 1966. 2 ans après, il y a 68. Je rentre dans le mouvement, tout jeune, hein, 14 ans, au lycée Voltaire, et je suis emporté par la tourmente. Et en fait, en revoyant un peu ma vie, je me dis que mai 68, ça a été la clé de mon intégration dans la société française. Voilà. Arrivé du Maroc, assez déraciné. Mais j'avais quand même un élément, c'est mon histoire familiale. Mon père avait fait la guerre d'Espagne. Ma grand-mère avait une bouteille de champagne au frigo qui a attendu 75 quand Franco est mort. Donc arrive 68, au lycée, il y avait celui qui dirigeait le mouvement, c'était Romain Goupil, qui s'était fait virer du lycée Condorcet pour cheveux longs. J'adhère à la JCR en 68. La JCR est dissoute. Et là, je rentre à ce qu'ils appelaient les cercles rouges, toujours autour du journal Rouge, je participe au processus de fondation de la Ligue d'avril 69. Voilà, et je vais suivre mes études jusqu'en 73.
Donc d'histoire, comme tout bon trotskiste.
Je deviens ensuite, en 74, permanent.
Vous aviez un petit salaire, du coup, de permanent?
Oui, jusqu'en 80. En 80, on discute de faire ce qu'on appelle un tournant vers l'industrie. On décide d'envoyer un certain nombre de cadres dans les boîtes. Je sors du bureau politique, je rentre à Renault-Flin. Il y avait deux éclairages à ce choix. Premier éclairage, c'est le fait que la Ligue n'était pas suffisamment implantée dans l'industrie.
La Ligue, c'était boîtes. Des intellos, des profs.
Des profs et le service public. Et il y a un deuxième éclairage, ça se passe en 81. Et là, nous, notre analyse, à tort, c'était l'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est un nouveau Front populaire. C'est une nouvelle grève générale qui arrive. Donc, il faut être là où ça se passe.
Oui, alors parce qu'on rappelle, donc, voilà. 1936, le Front populaire, c'est pas le Front populaire qui obtient toutes les avancées.
Mais c'est la grève générale.
C'est la grève générale. Vous pensiez être dans le même cycle historique
tout à fait.
Que le
Front populaire. Il y avait un aspect de répétition du Front populaire.
Sauf qu'il n'y a pas eu de grève. À partir de 80, ça a tout pacifié.
Voilà. On fait une erreur d'analyse.
Mais si on revient quand même à votre arrivée, François Sabado, à l'usine, vous avez quel âge à ce moment-là?
J'ai 27 ans.
27 ans, vous avez une licence d'histoire, ouais. Vous avez les mains lisses. Comment ça se passe?
C'était dur. Très dur, parce que le problème, c'est comment se faire reconnaître par les siens, c'est-à-dire les ouvriers. Et j'arrive là-dedans, c'était les premières semaines, ça a été super, super dur physiquement. Le fait de pas tenir le coup, par exemple, quand la chaîne allait trop vite, les autres me regardaient d'un air...
c'est qui celui-là? Vous n'aviez pas dit que vous étiez trotskiste?
Non, pas du tout. Et là, je prends contact avec les syndicats, on construit une cellule, parce qu'il y a d'autres camarades. On était plusieurs, on sort une feuille d'entreprise tous les 15 jours. Je n'ai jamais été définitivement embauché. La police de Renault m'a détecté. J'habitais chez mes parents à l'époque. Ils sont venus me voir, la concierge, pour poser des questions sur qui j'étais.
Parce que normalement, on n'a pas le droit de licencier pour motif idéologique. Mais là, c'était des CDD. Ah,
tout à fait. Voilà, c'était ça. Et donc, quand il y a eu les grèves en 82, Talbot-Poissy, j'ai intervenu de l'extérieur et j'ai fait pendant 2 ans un cercle de formation de 4 ouvriers sur l'économie marxiste. Un ouvrier marocain qui était en même temps royaliste et pour le Sahara, mais en même temps, il était d'accord avec nous. J'ai aidé à sa formation. J'ai appris à dialoguer avec les ouvriers. J'avais un vocabulaire, j'avais un discours qui était compris. Sur le long terme, je reste sceptique sur le procédé d'établissement dans les usines.
Pourquoi? Parce que il y a un aspect artificiel.
Je vais vous donner un exemple. On était rentrés à 4. Un ingénieur, un prof...
Les 4 étaient des militants de la Ligue qui avaient décidé de s'établir.
Tout à fait. 10, 15, 20 ans après, le prof, je n'ai plus de nouvelles. L'ingénieur est redevenu ingénieur. L'ouvrier est resté ouvrier. Et moi, je suis revenu permanent à la Ligue.
Qu'est-ce que vous voulez dire, François Sabado? C'est la greffe n'a pas pris.
Ça veut dire qu'on ne peut pas changer le statut social, l'état social des gens.
Alors, je reviens sur mai 81. Donc, mai 81, il y a cette erreur d'analyse historique. Les trotskistes sont des historiens, ils aiment l'histoire, ils s'appuient sur l'histoire, ils essayent de pas répéter les bêtises de l'histoire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez une réflexion sur ce qui s'est passé et vous vous dites, tiens, on peut peut-être changer les choses de façon plus réformatrice et non pas révolutionnaire, parce que quand même, entre 81 et 83, des choses ont changé. Il y a eu des acquis sociaux, des vrais acquis sociaux. Est-ce que ça déclenche une petite tempête dans votre tête de militant?
Non, pas du tout, parce que d'abord, je pense qu'on a peut-être sous-estimé ces acquis, mais quand est arrivé le moment de la réflexion, c'est 83-84, quand on voit que ce qui se passe, c'est...
La rigueur.
Et donc là, on dit, la preuve que... Quand les réformistes viennent au pouvoir, ils sont même incapables de faire des réformes. Ça confirme la nécessité de définir une stratégie et une tactique révolutionnaire. Ça montre l'impasse du réformisme. Voilà.
Alors après, vous redevenez permanent. On est en 82, là.
82, je vais être responsable d'intervention ouvrière, suivre les militants ouvriers, les cellules, etc., pendant 10 années.
Quand il y a les grèves, vous débarquez, voilà. Vous y allez, voilà. Vous essayez de repérer
exemple,
les gens qui...
Là, pendant une des grèves, je crois que c'est 91, de Peugeot. Sochaux, je dors chez les copains pendant un mois. On est un groupe de 2-3. Moi, je fais ça sur d'autres
toujours salarié de la Ligue.
Tout à fait. Et en 92, je pose le problème de mon avenir parce que j'ai quand même donc presque 40 ans. Que faire? Et je passe les concours à NPE. Et là, je suis reçu dans un concours de conseiller principal à la NPE. Et en 92, j'atterris à l'agence de Stein à la NPE. Jusqu'à 2020, ma retraite.
Mais quand vous êtes à la NPE, est-ce que vous avez la même démarche, même si vous y allez pour d'autres motifs? Est-ce que vous avez la même démarche en disant « je suis dans un endroit où il y a des travailleurs et je vais militer, là, et je vais être le levain ».
Là, je souffle un peu, voilà, je construis une famille, bon, voilà.
Henri Weber, qui deviendra sénateur PS et historien du mouvement socialiste, Alain Krivine, dont on parlera un peu plus la semaine prochaine, et Daniel Belsaïd, les trois sont décédés ces dernières années. Ils formaient un trio inséparable dans les années 70, après mai 68. Et Aurélie Marciro, bonjour Aurélie.
Bonjour Thomas.
Aurélie Marciro, cette semaine, vous consacrez votre chronique à Daniel Belsaïd, mort en 2010.
Philosophe et essayiste, il a été militant de la JC et de l'UEC, puis de la JCR, de la LC, devenu LCR, mais tous ces sigles n'ont plus aucun mystère pour vous. Pour le sociologue marxiste Michel Lowy, qui a écrit des livres avec lui, le communisme du XXIe siècle était pour Daniel l'héritier des luttes du passé, de la Commune de Paris, de la Révolution d'octobre, des idées de Marx et de Lénine, et des grands vaincus que furent Trotsky, Rosa Luxembourg, Che Guevara, mais aussi quelque chose de nouveau, à la hauteur des enjeux du présent, un éco-communisme, terme qu'il a inventé, intégrant centralement le combat écologique contre le capital.
Et alors, que lire pour mieux cerner Daniel Belsaïd?
Eh bien justement, je vous propose Fragments radiophoniques, paru aux éditions du Croquant en 2020. Il s'agit de transcription d'entretien avec le penseur en 2007 et 2008 au micro de la radio associative Fréquence Paris Pluriel. 12 entretiens pour interroger le XXe siècle, c'est le titre du livre, autour de 12 dates. Par exemple, octobre 17, date fondatrice parce qu'elle a été le point de division fondamental du mouvement ouvrier. Certains pensent, dit Belsaïd, que le cours XXe, qui va de la guerre de 14 et de la révolution de 17 à la chute du mur, est une parenthèse et qu'il serait possible de revenir à un mouvement ouvrier unifié comme avant 14. Je ne le pense pas. On entre dans une nouvelle étape, mais selon une formule qui m'est chère et empruntée à Deleuze, on recommence toujours par le milieu, on ne recommence pas à zéro. Sur l'assassinat de Rosa Luxembourg, il dit « L'échec de la révolution allemande a conditionné le siècle. On évalue souvent, et même on comptabilise, le coût des révolutions et des guerres civiles, mais généralement, on oublie de calculer le prix des révolutions perdues, des révolutions non faites. »
Et bien plus tard, les années Mitterrand.
Et le jugement est sévère. Les années Mitterrand ont démoralisé, au sens profond et premier du terme, désorienté profondément la gauche et a fait des dégâts durables dans le mouvement ouvrier, dit-il.
D'autres conseils de lecture, Aurélie?
Daniel Belsaïd a écrit beaucoup de livres. Vous pouvez, par exemple, lire l'excellent Marx, mode d'emploi, illustré par Charb à la découverte, et bien sûr, Une lente impatience chez Stock, une sorte d'autobiographie qui montre, selon son camarade Stavros Tombazos, je cite, dans quelle mesure celui-ci identifiait sa propre existence à celle de la révolution, sans aucun narcissisme, sans aucun sentiment misérable d'autosacrifice. D'ailleurs, comme il le note lui-même, l'engagement révolutionnaire était pour lui, pour nous tous, malgré ses déceptions et ses difficultés, une aventure réjouissante qui méritait bien donc 4 épisodes d'Enquête de politique.
Merci Aurélie. Et on retrouve François Sabadeau, ancien permanent de la LCR, l'homme qui a eu l'idée de propulser Olivier Besancenot.
On pose souvent la question, comment on peut encore se réclamer du communisme et de la révolution, un projet aussi ringard quand on n'a que 27 ans, mon Dieu, et ben c'est rien d'autre précisément que la démocratie totale.
Et alors dans le monde des trotskistes et des anciens trotskistes, il se dit que vous, François Sabadeau, vous êtes celui qui aurait eu l'idée de Olivier Besancenot.
Bon oui, j'ai joué un rôle de ce point de vue-là. On a eu Alain. Via la présidentielle 2002, Alain ne veut pas se présenter.
Alain Krivine a un discours très révolutionnaire, très cadré, très idéologique. Et le passage à Olivier Besancenot, ce postier de son époque, en basket, assez cool. Alors là, on n'est plus dans le trotskisme, on est dans le trotskisme ouvert, on a l'habitude avec la LCR par rapport à l'OCI ou à lutte ouvrière, mais on passe un cap quand même.
Tout à fait.
Et certains disent, on abandonne un peu la doctrine.
Il y a une transformation.
Les uns contre les autres, ils nous dressent. Nous stigmatisent, nous oppressent. En victime, voudrait qu'on pose. S'attaque aux effets, jamais aux causes. Pouvoir non partagé. Richesse non partagée. 8 milliardaires au sommet. 3 milliards et demi se font spolier. Financé pas qu'à bouler. Sponsor officiel de l'Elysée. Placez plus sur l'échiquier. Dans les médias, beaucoup de chiquets. J'en veux voir des mallettes de billets. Dans nos quartiers, le mal est par milliers. On ne sait même plus à la qui se fier. En vrai, pour ma croûte, est d'une planche à billets.
D'ailleurs, quand vous voyez Alain dans sa première campagne de 69, avec son costume et sa cravate, il a un aspect ascétique des révolutionnaires russes. Il y a une formule de Benjamin Stora, je ne sais pas s'il l'a utilisée, c'est la dernière génération d'octobre pour nous. On s'identifiait plus à la révolution d'octobre qu'à la révolution française. Et Daniel va essayer de rompre avec ça.
Daniel Bessaïd.
La révolution, puisqu'il fait un bouquin sur Jeanne d'Arc. Et sur la Révolution française.
Est-ce qu'on peut dire que Daniel Bensaïd essaye d'intégrer la notion de la République, de la Révolution française, dans le mouvement trotskiste ? Un petit peu comme Jaurès l'a fait vis-à-vis de Gued en 1900. Il intègre les valeurs de la République dans le mouvement socialiste.
C'est vrai, sur l'affaire Dreyfus, nous étions avec Jaurès contre Gued.
Sur l'affaire Dreyfus, on rappelle juste, Gued considérait que c'était une histoire de bourgeois, il ne fallait pas s'en mêler, que c'était le sabre et le goupillon qui s'engueulaient, et que ce n'était pas pour le mouvement ouvrier. Jaurès, lui, avait vu l'aspect antisémite et démocratique de l'affaire.
Nous, on est avec Jaurès. Daniel disait toujours, quand on ne plus parlait de République, il disait oui, virgule, quel est l'adjectif qu'on met après ? Donc République sociale, oui. La République, le problème, c'est qu'elle a un contenu. Oui. Voilà. Et que la République, c'est au nom de la République qu'on a massacré les ouvriers, le peuple algérien à Sétif en 45. C'est aussi au nom de la République qu'on a défendu les libertés démocratiques contre le fascisme et contre Pétain. Et dans le choix de Besancenot, j'ai le parallèle avec Gavroche. C'est la République des communards, la République sociale. Voilà.
La République hugolienne.
Aussi. La situation était la suivante. Alain ne voulait plus se représenter. Arlette ne voulait pas un accord. Donc on était obligé d'y aller. S'ouvre un débat à la direction de la Ligue. La tendance naturelle, c'est d'essayer de proposer une femme, la quarantaine, cinquantaine, dirigeante syndicale. Si on fait ça, il n'y aura pas cette rupture avec le profil d'Arlette. Et là, en discutant, vient l'idée d'Olivier. Je vais voir Olivier, je lui dis, écoute, qu'est-ce que t'en penses ? Il me dit, non, c'est exclu, c'est pas... Je lui dis, réfléchis bien, etc. Je le connaissais, on l'avait envoyé comme assistant d'Alain. Au Parlement européen, parce qu'Alain était député à l'époque au Parlement européen. Donc l'idée, c'était une rupture totale. Et la première affiche de campagne, c'est Olivier Besancenot, postier, 27 ans. Pas un mot de politique. Alors dans la Ligue, bien entendu, tout le monde dit, c'est pas ces conneries, c'est du marketing.
Et alors vous, François Sabado, quand vous voyez qu'en 2002, les candidats trotskistes, si on additionne, atteignent les 10%, qu'est-ce que vous vous dites ? Parce que vous êtes connu pour être un trotskiste, un militant trotskiste qui a toujours œuvré pour essayer de réunir les trois trotskismes français.
Le problème du trotskisme, c'est quand vous voyez le poids du trotskisme en France, c'est quand même assez spécifique. Hein. C'est un pays où vous avez eu un premier ministre qui était trotskiste pendant pas mal d'années, qui a même été trotskiste après qu'on croyait qu'il était plus trotskiste. Avec Jospin. Et encore aujourd'hui, vous avez des milliers de militants qui se réclament du trotskisme. Et vous avez beaucoup d'anciens trotskistes.
Mais vous, vous êtes toujours trotskiste ?
Oui. Oui, j'hésite dans la réponse parce que je ne milite plus. Je reste marxiste. Je pense que le moteur des problèmes sociaux, politiques, économiques, c'est la lutte des classes. La vision du monde, c'est l'internationalisme. Maintenant, je garde pas mal de convictions, mais j'ai changé pas mal de certitude. Les mauvaises langues disent trotskiste un jour, trotskiste toujours, quel que soit l'itinéraire.
Comment vous jugez ceux que l'on appelle les anciens trotskistes qui sont devenus, je ne sais pas, il y en a qui sont dans l'industrie, dans la finance, on peut parler de Denis Oliven, il y en a qui sont dans la haute administration, il y en a qui sont préfets, et vous avez une certaine sympathie, peut-être une complicité, ou vous les voyez comme des traîtres ?
Des traîtres, non. Ça, c'est une particularité de la Ligue. On peut garder des relations de sympathie. Ensuite, on juge politiquement ce qu'ils sont devenus.
Et est-ce que vous vous dites, peut-être qu'il est dans cette grande entreprise, mais pour revenir à Maurice Nadeau, il est aussi peut-être, il lui reste quelque chose du levain ?
Je pense que là, l'exemple de ce qui s'est passé avec les Lambertistes et le Parti Socialiste est illustratif.
Eux, ils expliquent que c'est une rupture politique, qu'ils ne sont plus d'accord avec Lambert, notamment sur la question du Front National.
Je pense à ça aussi, mais je pense surtout à Jospin.
Jospin, c'est l'ingestion, il a été digéré.
Ah oui. En tout cas, les Lambertistes ont passé le mythe de la prise du PS par leur fraction, avec Jospin comme figure de proue. Et c'est Mitterrand qui l'a récupéré. Bon, et Mitterrand savait depuis pas mal de temps que Jospin était un entriste lambertiste. Mais il l'a utilisé.
Pourquoi on devient autre chose que révolutionnaire quand on a été révolutionnaire? Est-ce que vous pensez que c'est parce que on vieillit et qu'on se dit finalement pourquoi risquer la brutalité, la violence? Est-ce qu'on peut pas progresser comme ça? Est-ce que le monde ne progresse pas? Les trotskistes sont férus d'histoire et donc voient bien l'évolution des choses. Ou est-ce que c'est parce que finalement la société est plus forte et on se fait simplement digérer pour des questions d'intérêt personnel?
C'est pas les intérêts personnels. Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect, c'est le fait de combattre comme révolutionnaire dans une situation non révolutionnaire, ça use. C'est incontestable.
C'est les moulins de Don Quichotte.
Voilà, il y a un aspect Don Quichotteste. Et ensuite, il y a un élément supplémentaire, c'est le fait qu'on a changé d'époque. C'est que nous avons combattu politiquement dans une époque qui était marquée par la force propulsive de la révolution russe. Et là, les changements, et ça c'est Daniel, hein, Ben Saïd qui l'indiquait, on termine cette époque-là.
Les références sont plus les mêmes.
Oui, voilà, toute la construction politique, sociale, pour un pays comme la France, depuis le milieu du 19e siècle, toute cette époque-là, elle se termine. Et là, il y a une transition qui est incertaine. Hein, on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors Gramsci disait des monstres dans cette période du déjà plus et du pas encore. Il y a cette situation-là. C'est vachement dur. Et sinon, vous avez des jeunes qui arrivent. Alors il y a l'écologie.
Qui bouleverse le trotskisme.
Il y a l'écologie ou même certaines sectes trotskistes. Il y a des groupes de jeunes qui sont super radicaux, super sectaires, qui se font référence à Trotsky. Et ça peut durer encore quelques années, ça peut changer. À un moment donné, il y a Marx et Engels, on dit maintenant on dissout la Première Internationale. On ne reste plus membre et militant que du Parti communiste comme parti historique. On est peut-être dans une situation de ce type-là.
Alors les trotskistes, quand même, sont présents assez fortement à l'intérieur de la France insoumise, ou d'anciens trotskistes, des deux tendances d'ailleurs, hein, ceux de la LCR et de la JCR, enfin de la LCR sont plutôt proches de Clémentine Autain par exemple, et puis ceux de l'OCI plutôt proches de Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ce mouvement-là et sur cette influence-là?
LFI est une affaire compliquée, parce que d'un côté il faut reconnaître à Mélenchon une certaine intuition politique, sa campagne, la NUPES et l'Union de la gauche. Et de l'autre côté, il y a Mélenchon avec ses méthodes de direction et Mélenchon avec ses positions internationales. Moi, c'est les deux gros problèmes que j'ai par rapport à Mélenchon. C'est les méthodes de direction, ces méthodes de direction qui sont des méthodes de direction autoritaires.
Et là, vous y voyez un résidu d'une certaine forme de trotskisme. Alors, c'est pas votre trotskisme. Hein. Vous êtes de la LCR, il était plutôt de l'OCI. Le côté un peu parano aussi vis-à-vis de la presse.
Ah non, mais de toute façon, Mélenchon l'a dit quand il est revenu faire une réunion dans le local des Lambertistes, en disant « Ici, je reconnais, ça fait partie de ma famille. » Voilà. Mais je pense que Mélenchon, c'est Robespierre, c'est la franc-maçonnerie, c'est le lambertisme, et c'est l'Amérique latine avec Chavez. Faites un milkshake de tout ça, et vous avez donc une pensée politique qui a une certaine cohérence, qui est en rapport avec l'histoire, plus la politique internationale, que moi je partage pas. Moi je suis à fond pour les Ukrainiens contre Poutine, et j'ai aucune hésitation là-dessus. Lui, il en a, c'est un tropisme latino-américain, campiste, d'être avec tout ce qui est contre les Américains. C'est pas ma conception. Il y a un impérialisme américain, mais il y a un impérialisme russe aussi. Donc il faut lutter contre les deux.
Et c'est la fin de ce troisième épisode d'Enquête de Trotskisme, réalisation Christophe Imbert, archives sonores Franck Olivard et à la technique Sofiane Aktib. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série. Mais si vous êtes impatient, les quatre numéros sont bien sûr disponibles en podcast. Et n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.